Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Zoom Écologie. Il est 20h30 sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Comme chaque mois, la team Arpentaire prend l'antenne pour explorer les luttes écologistes et sociales du moment, celles qui s'inventent ici et maintenant. Au programme ce soir, deux reportages. D'abord, direction Strasbourg où est née Radio Vénère, une radio libre montée pendant les mobilisations du 10 septembre dernier. Une radio éphémère devenue outil d'auto-organisation, d'expression collective et de lien entre les différents fronts de lutte à Strasbourg. Puis, dans un deuxième temps, cap sur Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, avec un reportage sur le contre-projet Green Dock, une lutte emblématique contre la bétonisation des berges de la Seine, face à l'entrepôt logistique géant que veut implanter le groupe Haropaport pour accélérer les flux de marchandises et de services des habitants, des travailleuses de la logistique, des naturalistes et des collectifs écologistes dont les soulèvements de la terre imaginent une alternative vivante et populaire pour préserver la biodiversité, pour repenser les conditions de travail et pour imaginer une logistique d'approvisionnement par et pour les habitants-habitantes. Partons tout de suite à Strasbourg, où on retrouve Louis en interview avec Radio Vénère.
Hello.
Hello. Bah là, du coup, je suis en présence de Radio Vénère, le collectif Radio Vénère. Alors, qu'est-ce que c'est un peu que Radio Vénère ? C'était quoi l'idée de départ ? Quels sont ses objectifs un petit peu ?
Radio Vénère, c'est une radio qui diffuse en continu des programmes collaboratifs. Ça veut dire que n'importe qui peut envoyer les audios avant, après, pendant les actions. C'est né autour de la mobilisation du 10 septembre 2025, indignons-nous, bloquons tout, et donc à Strasbourg. En fait, l'idée, c'était... ça avait déjà un peu germé pendant la mobilisation des agriculteurs RIS, qui était assez difficile à appréhender du point de vue de la ville, où on avait du mal à comprendre pourquoi les agriculteurs sont autant scotchés à la FNSEA, pourquoi ça marche à ce point-là, et essayer de créer un petit peu d'empathie, quoi. Et du coup, l'idée du groupe qu'on avait créé à l'époque, Micro-Ondes, c'était s'écouter, se parler, c'est-à-dire utiliser la radio comme moyen de discussion. Mais c'est clair que l'idée de base, c'était « je veux que tout le monde puisse participer ouais. avec son smartphone ». Parce que à l'époque, la grande époque de la radio pirate, tout le monde avait un poste de radio et du coup, ça a permis aux radios pirates d'être hyper populaires. Aujourd'hui, c'est les smartphones que tout le monde a sur soi. Donc, il faut qu'une radio pirate aujourd'hui, c'est une radio qui est basée sur le smartphone. C'est peut-être triste pour les personnes qui n'en ont pas et tout. Mais vous pouvez monter un émetteur FM dans votre coin, diffuser le flux de Radio Vénère sur les ondes en FM, et puis on se met tous sur le 108. Et voilà.
C'est clair.
Non, mais ouais.
Mais Radio Pirate, moi je sais pas. Enfin, moi j'avais connu ça, Radio Pirate, pendant mai 68. Donc ce qui maintenant est devenu Europe 1, avant était une radio pirate. Et en fait, on capte dans l'histoire et dans la littérature qu'en fait, c'était des moyens de diffusion et de massifier les mouvements en fait, jeunes. Et voilà.
Et ouvriers aussi, il y avait Lorraine Cœur d'Acier.
Mais c'était ça, c'était la grève générale. Ouais. De pouvoir se coordonner, de savoir. Et donc en fait, c'est vraiment...
Parler.
Se parler, discuter ensemble et de pouvoir... intervenir et moi je trouve ça super et de pouvoir s'en saisir et d'apprendre et puis voilà, et c'est trop cool quand les gens en manif ils vont dire ouais vas-y tu peux passer ce son ou vas-y moi j'ai envie de dire ça et en plus moi je trouve que c'est un très bon moyen de diffusion d'informations quoi.
que tu dis aussi, c'est que ça, enfin, moi je trouve que ça permet de visibiliser des trucs, par exemple, qui se passent dans des petites villes et où bah, y a pas forcément beaucoup de mobilisation, et quand il y en a, les gens ils sont pas forcément hyper nombreux, et ça peut avoir un côté un peu déprimant. Et en fait, tu dis, bah en fait, si tu dis que dans cette petite ville là il y a 50 personnes, et dans cette petite ville là, pas si loin, mais trop loin pour la voir, il y a 100 personnes, mais qu'en fait il y a un flux radio quand même qui te relie, je trouve qu'il y a un côté collectif quand même qui se fabrique. Juste, tu sais quoi, les gens sont là, t'es pas tout seul, c'est trop enthousiasmant.
C'est ça, vraiment, t'es pas tout seul quoi. C'est ce qui est le plus rassurant, je pense. Ouais. Quand on lutte et qu'on est chacun dans sa condition à vivre des injustices sociales et on se dit punaise, mais il y a que moi qui réagis. Et au final, non, on est plein. Mais du coup, c'est bien d'avoir une radio pour.
Bah ouais, c'est ça. Et, mais pour l'instant, je trouve que sociologiquement, on est quand même encore sur des témoignages qui sont très urbains. Encore qu'il y a quand même pas mal de diversité. Et ça, c'est trop cool dans notre équipe. Enfin, on est quand même plein de personnes queer, Andy ou Noroa, enfin, et où non, enfin.
Tout.
Ouais, enfin, bref, je sais pas, ratisé, ouais. Et c'est hyper divers en vrai, quand même. Et c'est un média qui parle à plein de gens. Mais ce que je voulais dire par là, c'est surtout que. On a aussi très envie de continuer ce média en allant en ruralité, en allant dans les quartiers, en faisant des plateaux comme ça, radio et tout ça, parce que la radio, ça permet aussi, donc ça permet de s'écouter sur le temps long quand on est hors contexte, etc., mais ça permet aussi de se rassembler et d'avoir en fait des moments de discussion qui sont jamais permis autrement en fait. Enfin, les AG, c'est pas la même chose qu'une émission de radio, etc.
Il y a une décision qui doit être prise.
Quelque chose, ouais. Il y a quelque chose en fait de l'ordre un peu du théâtre populaire ou de l'éducation populaire par la radio qui est possible, et du coup on a un peu envie d'aller creuser ce truc là aussi.
Ouais, et puis ça permet aussi Radio Vénère de, ben, si tu peux pas y aller à la manif pour voilà, je sais pas, t'as les enfants ou t'es trop fatigué ou voilà, c'est pas forcément, les manifs ne sont pas inclusives du tout quoi. Et du coup ben ça te permet de savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait
et grâce d'exprimer au Quirgo, ta colère.
Bah c'est ça, et grâce au Quirgo, bah, t'es en live quoi, t'es en direct en fait de ce qui se passe. Donc ça c'est, enfin ouais, moi je trouve que c'est super important d'avoir ça, et c'est top.
Et alors pendant les manifestations, on a pu voir dans certaines manifs du coup le Quirgo qui était baladé par les membres de Radio Vénère. Mais alors concrètement pour les auditoristes, qu'est-ce que c'est que ce Quirgo qui a ambiancé autant les manifs, qu'est-ce que c'est, et puis qui a aussi bien aidé à plusieurs reprises. Alors qu'est-ce que c'est que le Quirgo, si on devait le décrire un petit peu, qu'est-ce que c'est?
Le Quirgo, qui est un vélo cargo dans lequel il y a une sono et il y a moyen de mettre une sono, un studio mobile et encore d'autres trucs. L'idée c'était de venir un peu mobiliser tous ces dispositifs là et de s'en servir comme une plateforme de discussion.
Si on peut le décrire.
Et ben, ça ressemble à un mini bateau pirate. Enfin, je sais pas, vas-y, décris.
C'est ça, avec son mât.
Avec quatre enceintes à la place de la voile.
C'est ça.
C'est d'ailleurs des enceintes que j'ai récupérées de la terrasse d'un hôtel 5 étoiles où je travaillais il y a quelques années. Je les ai pas volées, hein, on me les a laissées.
C'était à disposition.
Ouais, voilà. Elles allaient être jetées. Donc c'est assez drôle parce que en fait elles sont toutes rouillées, en plus elles sont un peu défoncées. Puis maintenant, genre il y a des bandes de facettes de miroirs comme sur les boules à facettes qui décorent un peu tout ça sur
les
trucs de roue là au-dessus. Les garde-boue, merci. Et du coup.
Et le corps, du coup, du bateau.
Le corps, donc ouais, la caisse là.
La caisse.
C'est.
Mais ça ressemble vraiment à un bateau. Du coup, c'est noir comme ça. Et puis à l'intérieur, il y a plein d'objets pour faire la station, le studio mobile, quoi.
Parce que du coup, on peut émettre, du coup, la radio est mise en direct.
Ouais.
On peut aussi participer, émettre des musiques, on peut s'ambiancer en fait pendant la manif.
Ouais, c'est ça. Du coup, effectivement, ça a permis de faire, de créer un peu des. Enfin, de combler, on va dire, les moments de trous entre quelques slogans et tout pour redynamiser le truc. Et puis aussi, permettre à différentes cultures militantes de s'exprimer par la musique, parce que ben voilà quoi, la sono de la CGT, enfin le groupe,
voilà, la chorale de la CGT, on en peut voilà. plus.
C'est ça, les slogans, c'est parfois un peu répétitif et tout, et du coup l'idée c'est aussi de pouvoir mettre du gros pura, du punk, de la grosse techno, enfin voilà, du gros son.
Donc quand j'étais en manif à côté du Quirgo la semaine dernière, donc c'était pas en mode studio en direct, mais c'était pour enregistrer, et en fait il y a le côté bateau pirate, mais il y a aussi presque un côté pieuvre, parce qu'il y avait donc les personnes qui avaient des micros, qui avaient du coup un peu de marge, on va dire, pour s'éloigner un petit peu du vélo, et ça faisait vraiment ah toi, est-ce que t'as un truc à dire, ou des gens qui filaient des tracts et de leur dire bah en fait juste lis-le à haute voix dans le micro, enfin donc bateau pirate mais avec des tentacules.
Wow, le... cool, trop bien, ouais. Nice.
Trop bien. Et puis ouais, c'est un peu un kraken quoi. ouais, et puis ça sert aussi pour les âgés quand il y a besoin d'amplifier aussi les prises de parole et tout ça. Et donc voilà, après les cagettes, parce que tout le système électronique et tout est monté sur des cagettes de genre alimentaires, les trucs de boulangerie Indus et tout là, ce qui fait que c'est très très pratique parce que tu peux les empiler facilement et les connecter les uns avec les autres, c'est modulaire, et du coup ça peut rentrer aussi dans d'autres véhicules, ça peut être mis sur des carrioles, dans des voitures, dans un train et tout ça, c'est assez pratique, et du coup on est sollicité régulièrement pour venir avec le matos pour amplifier les manifs, et voilà, l'idée c'est ça, c'est que tout le monde peut contribuer à la playlist. Si vous avez des émissions parce que vous faites de la radio, vous pouvez envoyer aussi vos archives d'émissions, vous pouvez envoyer des jingles, enfin il y a moyen de faire plein de trucs, vous pouvez envoyer des agendas aussi, genre enregistrer bah voilà, dans ma ville il se passe ça, dadadidadada. Vous pouvez faire un petit témoignage de comment ça s'est passé. Vous pouvez aussi, et ça c'est un format qui est un peu aussi spécifique à Radio Vénère, c'est le format témoignage avec 4 questions de base qui sont librement adaptables. Et d'ailleurs, ouais, personne n'est obligé de s'y tenir, quoi. Il y a des gens qui se les réapproprient totalement. C'est en 4 étapes, en gros, c'est partir d'abord de son expérience personnelle et de ses conditions de vie. Donc, quelles sont tes conditions de vie, logement, santé, famille, argent, nourriture, machin. Comment ça s'est dégradé ces dernières années, et genre sous la 5ème République et tout ça, voilà. Troisièmement, c'est qu'est-ce que tu fais pour te rebeller face au mépris de tes droits, genre comment tu résistes, histoire de s'inspirer mutuellement. Et quatrièmement, c'est comme par quoi tu remplacerais ce qui te pourrit le plus la vie.
C'est de se relayer, c'est de voir aussi que c'est pas parce que tu vas pas en manifestation que tu ne peux pas participer, il y a d'autres moyens de participation. Et la vision anarchiste, c'est vraiment que personne n'est essentiel à la lutte et que tu peux partir et à un moment donné revenir, et que c'est pas parce que tu n'y es pas, enfin, c'est vraiment pas la culpabilité de l'individu là-dessus. Et le fait de relayer et d'avoir cette version-là d'autogestion, c'est de faire en sorte que, c'est d'apprendre en fait, de se transmettre et d'apprendre et de dire. Et à chaque fois, quelqu'un qui a appris un truc, tu vas pouvoir le transmettre après. Et c'est vraiment ça, ouais. C'est ça l'anarchie, quoi.
Ouais. Et du coup, Radio Vénère, pour finir, répondre à ta question, c'est un projet de long terme, clairement, parce que déjà, c'est pas que Radio Vénère, c'est aussi tous les autres collectifs qu'il y a autour, parce qu'on les a pas mentionnés encore, mais il y a aussi le collectif de radio de la parole errante, en complicité avec des personnes partout en France. Surtout hexagonal pour l'instant, malheureusement, mais déjà il y a ça, on est déjà pas mal connecté entre radio militante, etc. Mais aussi l'idée, c'est effectivement localement de se transmettre les compétences, genre histoire de se partager quand même au moins un peu une idée de comment fonctionnent les choses, comment elles ont été mises en place, etc. Et surtout derrière, on a envie d'ailleurs de documenter toute cette architecture là pour que d'autres puissent la répliquer ailleurs, que ça puisse être fait d'une autre manière, que ça puisse être mutualisé, fédéré, genre voilà. Et il y a plein d'idées, c'est hyper foisonnant. Et en fait, voilà, c'est ça.
C'est vraiment ça, c'est cette idée de transmettre, d'apprendre. Et avec ce système de pouvoir téléverser des sons, mais ça c'est génial, ou des témoignages, ou de la poésie, ou plein de trucs. Et en fait, ça soit vraiment participative, quoi. C'est pas. C'est très horizontal. C'est
juste... Donc le site, on va répéter l'URL, c'est micro-onde au pluriel.org/radiovénère. VNR.
La piraterie n'est jamais finie.
La piraterie n'est jamais finie.
J'pue de la gueule quand je dis leur programme à voix haute. Ils écrivent leur discours de la main gauche, la droite est dans nos poches. Font des clins d'œil appuyés à la petite fille d'un bang. Si je vais à leur funérailles, c'est pour m'assurer de leur mort. Œil pour œil, dent pour dent, on sera aveugle et édenté. Gigantesque la foule, en cagoule et éganté. Abat le Gotha, j'suis le golem de Gotham. C'est le son des quotas et quantité d'antifa. J'pisse sur la fleur de lys, sur les faffes, les souverainistes, les pédérastes, pétainistes. J'pisse sur les racistes, sur les haineux maladifs qui jouent les asymptomatiques. Ceux qui chient sur les muslims, mes panthéoni Joséphine, qui mettent le vice en pratique, la vertu en théorie. Les puritains en public, mais les gros pervers dans la vie. Les nervis de la république, les juges, les sugar daddy. Les hommes politiques qui revendiquent jusqu'aux royalties de la Bible. J'suis ni le français moyen, ni le moyennement français. Comme dans un film coréen, j'attends la fin pour me venger. J'les compare même pas à des chiens, ils n'ont pas leur loyauté. Y'a que les Amérindiens qui peuvent se méfier de l'étranger. L'immigration c'est l'avenir, ça rapporte plus que ça coûte. S'ils ont sauté du navire, c'est sûrement pas pour faire la course. S'ils ont traversé la Manche, c'est sûrement pas pour faire la manche. Ils veulent qu'on quitte le pays, qu'on sorte les poubelles en partant. Si ces clowns ont mauvaise haleine, c'est qu'ils ont le cœur sur les lèvres. Je suis ni d'Alsace, ni de Lorraine, ni d'Allemagne, ni de Bohème. Qu'un enfant de colonisé, de Dakar jusqu'à Alger. Comme des millions d'étrangers, mais mon cœur, vous ne l'aurez guère. Mon petit cœur est français.
Dans l'actualité des luttes ce mois-ci, outre la création de notre radio amie Radio Vénère à Strasbourg, nous nous sommes aussi déplacés à Saint-Denis pour écouter la présentation du contre-projet à Green Dock, cet entrepôt industriel XXL prévu à Gennevilliers pour accélérer la logistique de flux. Ce contre-projet est une initiative du groupe local des Soulèvements de la Terre avec des habitants, habitantes, des travailleuses de la logistique qui proposent de renouer avec la tradition des projets alternatifs en veillant à réfléchir à ce projet collectivement et par le bas. On les écoute.
Eh ben c'est parti, merci à toutes et tous d'être venus ici pour cette présentation du contre-projet Green Dock. Donc on va revenir en détail sur comment est-ce que ça s'est construit, comment on l'a pensé, et surtout qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Puisqu'autant le dire tout de suite, et vous allez le voir si vous commencez à feuilleter le document, si vous l'avez déjà fait, que ce contre-projet, ce n'est pas un plan d'urbanisme tout ficelé avec des mesures et des choses très très détaillées. C'est plutôt une méthode qu'on veut penser collectivement avec plein de gens, donc sûrement vous aussi, puisque vous êtes là et que sûrement ça vous intéresse, qu'on a déjà commencé à penser avec plein de gens, qu'on peut déjà commencer à citer maintenant. Vous verrez, c'est dans la documentation derrière, on retrouve un petit peu ça. À la fois les riverains, les habitants qui ont lancé la lutte Green Dock, donc contre cet entrepôt géant, on va le redire un petit peu tout à l'heure, mais a priori vous savez un peu de quoi il s'agit. Donc les riverains, les habitants, le collectif Stop Green Dock, plein d'associations aussi environnementales du 92 et du 93, puis ensuite avec les syndicats, des unions locales, départementales, de la CGT, de Solidaire du 92 et du 93, des syndicats du port, il y a une syndicaliste du port qui est là, avec qui on a beaucoup discuté, avec le comité local des Soulèvements de la Terre qui s'appelle Pleine Tempête, qui a aussi beaucoup participé à tout ça. Bref, on refera un peu la liste, vous verrez, c'est expliqué aussi sur les documents. Mais en tout cas, c'est un truc vraiment collectif, et l'enjeu de faire un truc collectif, c'est aussi de ne pas dire on va faire des plans tout déterminés, tout ficelés, comme font les urbanistes, un peu d'une vision qui viendrait vraiment du haut. Donc on a appelé ça, c'est marqué sur le document, une planification par le bas, et on va essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais peut-être pour commencer, on va revenir un peu sur la genèse du contre-projet, puis après on va présenter un peu les axes. Et à chaque fois, on essaiera de s'arrêter un peu pour des temps de discussion, donc n'hésitez pas, soit des questions, soit des interventions, Et je dis intervention parce qu'il y a plein de gens ici que je reconnais qui sont impliqués déjà dans la lutte contre l'entrepôt Green Dock, qui sont des habitants du territoire, qui sont des syndicalistes et qui donc ont une expertise sur ça. Et donc voilà, on va faire la présentation comme on pense le contre-projet, c'est-à-dire d'une façon un peu participative. Donc comment ça commence tout ça ? Donc il y a un sommaire, vous allez voir, avec plein d'étapes, on va suivre un peu ce sommaire. Je précise tout de suite peut-être avant de commencer aussi que ce document-là que vous avez sur les tables, alors on ne vous cache pas qu'il est tout frais imprimé, hein, il était imprimé hier soir, et que du coup il n'est pas encore tout à fait disponible. Assez rapidement, il va y avoir alors, le PDF accessible pour le télécharger, et puis on va, l'idée c'est de faire un site internet un peu dédié, sur lequel on va pouvoir retrouver l'ensemble des documents qui sont sur ça, donc vous allez pouvoir le consulter et le relire au calme dans pas longtemps. Et puis c'est un document qui évoluera bien sûr selon les étapes. Donc je ne vous fais pas tout le plan, vous aurez le temps de regarder ça. Mais plutôt je commence par le contexte. Donc le contexte c'est cette histoire d'entrepôt Green Dock. Donc très rapidement, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas encore ce que c'est Green Dock. Green Dock c'est un projet d'entrepôt géant qui est prévu sur les berges de la Seine à Gennevilliers. Alors sur le port de Gennevilliers, qui n'est pas vraiment un port en fait, c'est une immense zone logistique avec beaucoup plus de camions que de bateaux. Mais à l'extrémité du port de Gennevilliers, et c'est là que le problème arrive, c'est qu'en fait ce projet d'entrepôt géant, il est prévu sur les berges de la Seine. Vraiment le long des berges, hein. Aujourd'hui on sait qu'au plus près les constructions ce sera à 4 mètres de l'eau. Donc c'est vraiment le long des berges, et sur 650 mètres de long. C'est pour ça qu'on appelle ça entrepôt géant, 650 mètres de long c'est très très long, et sur 35 mètres de haut. C'est la hauteur maximale du bâtiment, 35 mètres de haut. Donc ça fait un immeuble de 18 étages je crois, je ne sais jamais si c'est 15 ou 18.
C'est pas 13, 12.
12, bon bref, ça fait... Essayez d'imaginer 35 mètres, c'est très haut, ça fait un très très gros truc. Les entrepôts qu'on voit habituellement dans les zones logistiques, ils font 12 mètres, 15 mètres de haut. Donc là, c'est plus du double que de ce qu'on voit d'habitude pour un entrepôt. Donc c'est très très gros, très très grand, et sur les berges de Seine. Donc ça pose plein de questions. La première question que ça posait, c'était celle du greenwashing. Et il a bougé tout seul, non ? Ah oui, c'est ça. Celle du greenwashing. Donc en fait... dans le contre-projet, on a voulu mettre en avant ça parce que c'est un peu le moteur de cette lutte pour les riverains, les riveraines, les habitants, puis tous les autres ensuite. C'est cette idée que l'entrepôt, il s'appelle Green Dock. Alors Green Dock, vert pour l'écologie bien sûr, et Dock pour le fluvial. Et en fait, ça a été un moteur de la lutte parce que c'est un greenwashing éhonté, vraiment. Donc c'est pas du tout green, c'est un entrepôt logistique. Géant, c'est pas du tout Dock parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était pas du tout de la logistique fluviale, c'est comme ça que c'était présenté au début, il y a des articles, notamment un article des Échos, qui est très beau au tout début, mais c'était un entrepôt fluvial à Gennevilliers, et en fait, maintenant on sait que le fluvial, ce serait 10% peut-être des flux, voire moins, parce que c'est que des promesses, et que tout le reste, c'est des camions. Donc c'est pas du tout green, donc bien sûr, ça pose des enjeux climatiques, parce que plus de camions, des enjeux de santé aussi sur le territoire, parce qu'on a déjà beaucoup de pollution atmosphérique sur les territoires et déjà beaucoup de camions. Ça pose aussi des enjeux en termes de bouchons, très concrètement, quoi, pour se rendre au boulot ici sur le 92-93, souvent il faut une voiture et il y a déjà beaucoup de bouchons. Ça pose aussi des questions d'inégalité environnementale. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant aussi, voire même de racisme environnemental, on peut utiliser le terme. En fait, l'idée, elle est assez simple à comprendre. Vous voyez, sur la Seine, en fait, on nous promet la baignade au cœur de Paris. Et nous, dans la banlieue nord, on a le droit à des entrepôts logistiques géants avec plein de camions. Et donc, évidemment, ça passe pas. Et puis, ça pose aussi des questions en matière de biodiversité. Parce qu'il y a une particularité. Alors, c'est un peu le truc de cet entrepôt, il cumule les défauts. Il y a une particularité, c'est qu'il est prévu juste en face d'une zone Natura 2000. Qui est en fait la seule zone Natura 2000 d'Europe, je crois, en zone urbaine dense. Et la seule ville de France en petite couronne, il n'y a pas d'autre zone Natura 2000. Et cette zone Natura 2000, c'est la pointe de l'île Saint-Denis. Et la pointe de l'île Saint-Denis, en fait, c'est une zone où il n'y a pas accès pour les humains. C'est non anthropisé. Et il y a plein d'oiseaux. Il y a plein d'espèces qui ne sont pas que des oiseaux. Donc je ne vais pas les détailler maintenant, on pourra y revenir, il y a des slides là-dessus. Et bien sûr, l'entrepôt, il est construit juste en face. Et tellement proche, en fait, qu'il va mettre sous l'ombre une partie de l'année cette zone Natura 2000. Donc, a priori, les oiseaux, c'est fini si l'entrepôt se construit. Et puis, dernière chose aussi, dans les axes aussi greenwashing, il y a toujours une promesse qui est mise en avant dans ce genre de situation, c'est celle de l'emploi. Donc là, la promesse, c'est 700 emplois. Bon, très souvent, le chiffre annoncé est beaucoup plus élevé que le chiffre réel, donc on peut imaginer que c'est sûrement moins. Et puis même, la question en termes d'emploi, c'est qu'est-ce que c'est que ces emplois ? Donc c'est des emplois de logistique. La logistique, c'est le secteur où il y a le plus d'accidents du travail, le plus de maladies professionnelles, où il y a le plus d'intérim. Donc c'est un secteur qui cumule pas mal de défauts. Et puis la question, si c'est là aussi en termes d'inégalité de territoire, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours ce genre d'activité qu'on propose à nos territoires? Pourquoi est-ce qu'en banlieue nord, on a toujours ce genre de boulot? Pourquoi il n'y a pas d'autres types d'activités économiques qui sont pensées? Et en plus de ça, l'entrepôt, comme c'est un promoteur immobilier qui doit le construire, que ça va être loué à des sous-traitants logistiques qui vont ensuite travailler pour d'autres entreprises, on sait que ces chaînes de sous-traitance-là, elles génèrent du travail dégradé, des emplois dégradés. Et c'est pour ça aussi que les syndicats du territoire, y compris, ont rejoint assez vite la lutte Stop Green Deal. Donc on part de ça. Et à partir de ça, se construit petit à petit.
Peut-être un petit point sur la MRL.
Ouais, un tout petit point. Il y a dans les données qu'on utilise, vous allez voir, il y a pas mal de données qui sont mises en exergue à certains moments. Il y a des petites notes. On peut préciser une chose, c'est que bon, au début, nous, on avait nos propres données. Les riverains ont beaucoup travaillé sur ça. Il y a un site, si vous tapez Stop Green Dog, vous allez tomber sur le site de préservation Berge de Seine sur Internet, où il y a beaucoup, beaucoup de données. Et récemment, il y a la MRAE, l'autorité environnementale, donc une instance indépendante de l'État, qui a produit un rapport sur l'entrepôt Green Dog. C'est dans le processus légal. Et dans ce rapport, il y avait beaucoup de données, des données sérieuses, des sources objectives. Et nous, maintenant, on utilise beaucoup ces données-là. Donc quand on dit, par exemple, alors c'est pas marqué là, mais que ce qui est prévu pour le projet Green Dog, c'est 2500 véhicules par jour, en plus. Donc le green ne marche pas du tout. Ça, c'est les données de la MRAE, donc vous allez voir, vous allez les retrouver à différents moments. Donc, on part de Green Dog, mais assez rapidement, en fait, la volonté autour du contre-projet, mais plus largement autour de la lutte Green Dog, ça a été d'élargir un petit peu. Alors, d'élargir déjà sur le sujet de la logistique, et c'est ce qu'on a appelé résister à l'empire de la logistique. Alors, quand on utilise l'expression empire de la logistique, en fait, on veut essayer d'exprimer quelque chose. C'est de dire qu'en fait, on n'est pas contre toute la logistique. On vit dans une grande métropole, on n'est pas en capacité, nous, de produire et d'acheminer tout ce qu'on conserve. Bon. Donc, la logistique, c'est utile, on en a besoin. Par contre, il y a un type de logistique dont on n'a pas beaucoup besoin et qui ne nous sert pas et qui est vraiment très néfaste pour l'écologie, c'est ce qu'on a appelé l'empire logistique. Et on essaie de le représenter, ça vous allez le voir à d'autres moments du contre-projet, en faisant des collages et en essayant de mettre en avant c'est quoi les images qui expriment un petit peu, alors j'essaie de bouger parce que je suis devant l'écran, mais les images qui expriment un peu qu'est-ce que serait l'empire logistique. Donc bien sûr il y a Jeff Bezos, bien sûr il y a Bolloré, grand empire logistique, et aussi racine coloniale de la logistique, puisque Bolloré c'est de la logistique en Afrique, les colis Amazon, les drones, cette histoire de technologie où on nous fait rêver un monde très fluide, et en fait on se rend compte que c'est pas un monde très fluide, c'est des très gros entrepôts avec des milliers d'ouvriers qui travaillent dans des conditions très pénibles, et puis beaucoup beaucoup de camions. Donc la fluidité, la légèreté Amazon, là, ça marche pas. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'empire logistique, et on essaye de construire autre chose. Donc on peut aussi le résumer par des chiffres, le fait que 90% des entrepôts sont seulement reliés par la route, que le fret ferroviaire est très peu utilisé, etc. etc. Le rôle des fonds d'investissement dans tout ça. On peut rappeler sur le rôle des fonds d'investissement que le promoteur immobilier qui veut construire l'entrepôt Green Dog, qui s'appelle Goodman, c'est un géant de l'immobilier australien, c'est un des leaders mondiaux de l'immobilier logistique, et qu'en fait le but dans tout ça, c'est de faire de la financiarisation immobilière. Il n'y a pas du tout une activité pensée pour un territoire, on est complètement déconnecté de ça. Et puis bien sûr, c'est les porte-conteneurs, les grands bateaux. Et quand je parlais des images collées, vous voyez bien l'idée, c'est que cette idée de faire un peu des collages avec des images, c'était justement pour nous une manière d'éviter un peu le format trop urbaniste. Alors je suis désolé si on a des urbanistes dans la salle, j'ai rien contre l'urbanisme, mais vous voyez de quel urbaniste je parle, du plan tout fait, tout fini, sur lequel on n'a aucune prise possible. Alors que coller des photos pour exprimer ce qu'on veut pas et coller des photos pour exprimer ce qu'on voudrait, bah c'est beaucoup plus facile à s'approprier, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée graphique du contre-projet. Ce contre-projet, donc, c'est sûr, très rapidement, on sort de l'entrepôt juste Green Dog, on essaie de penser le problème de la logistique dans son ensemble, tout en gardant la connexion avec la lutte Green Dog. Hein. Et d'ailleurs, juste, je fais une toute petite parenthèse, j'aurais dû la faire au début, pour garder la connexion avec la lutte Green Dog, en ce moment, c'est l'enquête publique de Green Dog. Et donc, tout le monde peut donner son avis dans l'enquête publique pour dire qu'on est d'accord ou pas d'accord, vous avez compris que nous, on n'est pas d'accord, et qu'on vous invite à laisser un avis pour ça. Mais en tout cas, il y a vraiment un enjeu de garder le côté local de la lutte et de vraiment avoir une activité contre cet entrepôt, mais en même temps d'élargir. Et élargir, c'était élargir à l'empire logistique en général, mais élargir aussi en termes de lutte, puisque ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que la lutte Green Dock, elle s'est connectée avec d'autres luttes sur le bassin de la Seine, au sens un peu élargi du bassin de la Seine, qui, elle aussi, pose la question de la logistique. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que dans des territoires métropolitains comme le nôtre, très souvent, le problème du point de vue environnemental qui ressort dans les luttes, il est très souvent lié à la logistique. Et donc, dans ces luttes-là, et je vais vous inviter à dire un petit mot si vous voulez, il y en a plusieurs. Bien sûr, il y a le canal Seine-Nord-Europe. Il y a aussi des projets moins connus comme la mise à grand gabarit de la Seine à Labassé, au sud de l'île de France. Bref, tous ces projets-là, en fait, l'idée, c'est d'utiliser le fleuve, l'eau, soit comme un prétexte, soit comme juste un outil pour faire des énormes autoroutes logistiques. Et nous, on a essayé de connecter tout ça pour la lutte. Mais ensuite, l'idée, c'est de le connecter pour le contre-projet. Et puis, donc, petite dernière chose sur le contexte, avant-dernière, je vais aller assez vite pour ne pas durer trop longtemps. Il y a cette idée que le port de Gennevilliers, c'est vraiment un territoire servant. Territoire servant, c'est un terme qu'utilisent les économistes. Et en fait, territoire servant, c'est l'idée qu'il y a des territoires dont on dit qu'ils sont désignés à servir d'autres territoires. Et en fait, Gennevilliers, c'est le territoire servant au sens où il devrait servir la métropole. Donc il faut qu'il accueille beaucoup d'entrepôts, des industries polluantes, des métiers difficiles, tout ça pour servir la métropole du Grand Paris. Et nous, on veut essayer d'aller contre cette notion-là. L'idée, c'est de reconnecter cette zone industrielle logistique avec son territoire proche, avec ses habitants, pour qu'il y ait une vraie utilité sociale au port de Gennevilliers, et que ça ne serve pas juste d'endroit où en fait on met tout ce qu'on ne veut pas avoir ailleurs. C'est pas un hasard si le port de Gennevilliers il est à Gennevilliers et pas à Neuilly-sur-Seine. Enfin, on sait tous qu'il y a une histoire longue de ça, des installations polluantes dans les territoires populaires. Et donc on veut lutter contre ça, et donc le contre-projet, il a un peu cette échelle-là, l'échelle de la zone logistique de Gennevilliers. Alors on peut dire port, mais n'oubliez pas, quand on dit port, toujours c'est pas un port, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup plus de camions. Et donc c'est l'échelle de cette échelle-là qu'on va adopter pour le contre-projet. Et il y a une dernière chose dans le contexte, c'est l'enjeu de l'accès à la nature. On l'a dit, la biodiversité, c'est important dans ce contre-projet. Donc il y a tout un axe, des axes naturalistes pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de cet entrepôt, et plus largement, comment on pourrait faire en sorte que cette zone logistique, qui va sûrement pas disparaître du jour au lendemain, elle puisse exister en cohabitation avec le vivant, y compris pour les ouvriers et les ouvrières du port, on en reparlera, mais que tout ça puisse fonctionner ensemble. Et en fait, quand on dit ça, on pense à différentes choses. On pense à une cohabitation entre des activités de loisirs. Il y a plein de projets, en fait, sur le petit bras de Seine de l'île Saint-Denis. Il y a plein de projets des mairies, donc sauf la mairie de Gennevilliers. Les autres mairies ont plein de projets de bases de loisirs, peut-être de baignades dans la Seine. Et en fait, ces projets, il faut qu'ils marchent ensemble, quoi. Et ça ne marche pas avec un entrepôt géant sur les berges. Donc il y a vraiment cette idée de cohabiter, et de cohabiter aussi avec les espèces qui existent là-bas, la biodiversité qui existe là-bas, et ça on en reparlera plus tard en détail, peut-être, je ne vais peut-être pas en redire trop, mais voilà, vraiment cette idée de créer une espèce de cohabitation avec le vivant sur place, quoi. Pour l'instant, on est d'accord que ça ne marche pas. Par contre, l'enjeu, là, maintenant, ça va être de qu'est-ce qu'on peut penser, nous, à la place. Alors, bien sûr, on garde la lutte contre l'entrepôt, mais qu'est-ce qu'on peut penser à la place. Et du coup, je laisse la parole.
Ouais, alors, un des constats qu'on s'est posé, c'est que dans le fond, ce qui se joue là aujourd'hui avec l'entrepôt va se reposer avec tous les entrepôts de demain et de plus tard. Il y a un vrai enjeu à se ressaisir du devenir de ce territoire. C'est-à-dire que, bien sûr, on hérite d'un territoire qui est un territoire de la logistique, et il faut qu'on arrive à recréer des espaces dans lesquels, collectivement, on peut penser la manière dont ils vont évoluer. Donc, ce qu'on vous présente là, il y a un petit peu quand même d'ancienneté, hein, quand on regarde la frise qu'il y avait juste avant. Il y a eu un des premiers ateliers qui avait été fait collectif et citoyen sur quelles seraient les revendications contre Green Dock. Et de ça, on a proposé, nous, de retenir plutôt des axes de problématiques qui nous semblent à résoudre collectivement, quoi, des axes de tension. Trois axes de tension qu'on a appelés, nous, un peu des hypothèses de travail autour desquelles on vous propose de travailler. Donc le premier, c'est sur la question de la cohabitation avec tout ce qui est le vivant. C'est-à-dire que, comme on a évoqué un peu tout à l'heure, hein, la zone Natura 2000 qui est au nord du parc, c'est un espace qui a des vraies qualités en termes de biodiversité. Pour autant, il y a une vraie mise en tension avec la question de l'accès à la nature. C'est un endroit qui va avoir une importance de plus en plus grande pour les habitantes du territoire, en tant que lieu de fraîcheur en été. On sait qu'il y a de plus en plus de problématiques de canicule. Et donc, il va falloir réussir à penser une articulation entre ces deux choses. Parce que si on regarde même l'histoire de ce territoire-ci, une des erreurs, ça serait de sanctuariser cette zone sans rien d'autre, à penser que c'est une forme de nature virginale. L'histoire de ce territoire, hein, c'est les déchets d'Haussmann. C'est le baron Haussmann qui vient décharger sa poubelle dans le nord de Paris et qui abandonne ça là, et la nature qui reprend ses droits. De la même manière, si on regarde un petit peu précisément ce qu'il y a dans ce territoire, on a aussi une nature qui a été forgée par les flux de la logistique. C'est assez singulier, hein, on a envahi des perruches d'Orly, là, ce perruche qui sont tombées d'un grand truc, et en même temps, il y a tout un tas d'espèces qui sont rares là-dedans. Donc qu'est-ce que ça engage? Ça engage en fait d'essayer de penser des rapports à la nature qui sont liés à ces territoires industriels. Comment est-ce qu'on arrive à penser cette nature-ci? Pour l'instant, par exemple, on a eu plein de camarades des naturalistes des terres qui sont venus, qui nous ont aidés à compter un petit peu les espèces protégées, etc., dans une stratégie tactique, on va dire, de rapport de force. Mais il y a aussi, en fait, tout un tas d'autres espèces qu'on, au final, on regarde très peu. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette nature industrielle? Comment on pense cette nature industrielle qui ne s'arrête pas, d'ailleurs, à la zone Natura 2000, mais qui va également à l'intérieur des entreprises? Donc il y a une vraie question qui se joue là-dessus, quoi, qui est un premier axe de questionnement. Donc là, on a émis quelques questions, un peu genre comment on concilie une activité logistique et le maintien de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des péniches qui vont passer là-dedans. Si on ne veut pas juste rejeter le bébé de pas, bah, comment est-ce qu'on fait ça? Quels sont les aménagements qui nous permettent de faire ça? Quelles sont vraiment les espèces vivantes qui habitent dans ce territoire-ci? Comment est-ce qu'on accompagne leur évolution et on les prend en compte? Et comment est-ce qu'on arrive un petit peu à penser intelligemment notre âme verte, notre âme bleue à l'échelle du port? Ouais, éventuellement, peut-être les naturalistes voulaient nous parler un peu s'il y a certains.
Bien, oui. Bon, il faut savoir déjà que quand il y a une friche, que ce soit sur Green Dock ou que ce soit les remblais qui étaient du baron Haussmann, issus des travaux du baron Haussmann, on sait que la nature reprend ses droits. Donc c'est vrai qu'en avril 2024, c'est ça, on avait fait des inventaires éclairs sur un week-end où on avait effectivement repéré plus de 150 espèces et là-dedans des espèces protégées, et on avait vu effectivement les dégâts des premiers travaux, parce qu'il faut voir que le projet Green Dock, c'est un projet où il y a eu une démolition de bâtiments anciens, donc d'une friche qui existait déjà, là où les espèces avifaunes s'étaient déjà installées. Et elles ont été déjà combattues ou voire détruites. Donc il y a eu ces inventaires éclairs. Après, la vision, si je ne m'étends pas trop là-dessus, pour faire court et laisser parler aux autres, mais la vision après qu'on peut en avoir, c'est que c'est la défense du vivant, entre le vivant humain et le vivant non humain. Comment on fait cohabiter effectivement toutes ces espèces, qu'ils soient endogènes ou exogènes, et qui viennent sur ces territoires-là? Et comment on fait cohabiter entre le positionnement de l'humain, de l'activité humaine, et qui est nécessaire, et puis comment on peut y installer des espaces où la biodiversité retrouve sa place, puisse recoloniser et trouver un équilibre qui permette effectivement de pouvoir préserver la santé des riverains, de limiter l'activité, humaine, qui soit néfaste, quoi, pour la. Hein, quand on voit l'entrepôt tel qu'il est prévu, on voit déjà les dégâts par rapport à la démolition que ça a fait, et on voit également, effectivement, les dégâts que ça va faire sur la zone Natura 2000, notamment avec l'ombre projetée par un bâtiment qui est monstrueux.
T'as dit l'essentiel. Ce que tu disais sur la sanctuarisation et la nécessité de penser un peu cette nature industrielle, j'aime beaucoup ce terme. Enfin, je suis vraiment, et je pense que les naturalistes des terres, on est plutôt d'accord avec cette ligne-là. Juste pour donner un exemple, pour illustrer, bon, on sait que la friche qui existe actuellement à la place des anciens entrepôts qui ont été détruits et qui est concernée par l'emprise du projet. C'est un truc auquel on a pensé récemment, c'est que c'est typiquement le genre de territoire. Alors c'est une friche, donc c'est colonisé notamment par les espèces végétales qui sont dites pionnières, mais qui sont parfois des espèces exotiques et envahissantes. Enfin, on sait que voilà, c'est des espaces qui sont particuliers. Mais ce qu'on s'est dit récemment, c'est que c'était typiquement le genre de territoire qui pouvait accueillir un insecte qui se trouve être protégé en Île-de-France. C'est le dipode turquoise. Juste pour l'anecdote, vous avez peut-être déjà vu, c'est un orthoptère, donc c'est un criquet, si je ne dis pas de bêtises. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le sud de la France, c'est ces criquets, quand ils s'envolent, on voit leurs ailes et elles sont d'une couleur très très vive. En l'occurrence, celui-là, il a les ailes turquoises. Et c'est un moyen pour ce criquet de tromper les oiseaux, parce que l'oiseau va voir un criquet avec des couleurs éblouissantes. Ça va lui taper dans l'œil, il va se dire « Ok, il faut que je trouve ce criquet, il faut que je le mange. » Sauf qu'une fois revenu à terre, le criquet rabat ses ailes et il apparaît complètement terne et marron. Donc c'est une stratégie de camouflage qui est cool. Voilà. Je pense qu'on... non, mais je pense qu'on pourrait... Enfin, il y aurait plein de choses à dire, mais t'as très bien parlé.
Eh ben, on va continuer, mais à chaque fois, on fait des petites pauses et de toute façon, on pourra discuter. Donc il y a un enjeu essentiel dont on a déjà un peu parlé, hein, c'est le travail. Bien sûr, nous, on voulait penser le lien avec la question du travail. Plus généralement, hein, les contre-projets, c'est aussi des endroits où on peut casser ce discours qui oppose d'un côté les emplois et de l'autre côté l'écologie. Et ce serait soit l'un, soit l'autre. C'est complètement faux, hein, c'est un faux discours, il faut le combattre tout le temps. Et les contre-projets, ils servent à ça, parce qu'en fait, quand on repense une logistique qui fonctionnerait un peu mieux, et ben forcément, on repense le travail qu'il y a derrière. Donc sur le port, aujourd'hui, il y a 8000 ouvriers. C'est beaucoup, hein, c'est une très grosse concentration d'ouvriers sur le port. Et j'ai ouvrier et ouvrière parce que, en fait, dans la logistique, il y a plus de 80% de l'emploi logistique, c'est des ouvriers et des ouvrières. Et je dis avant ouvrier parce qu'en fait, c'est plus de 80% d'hommes. Mais il y a aussi des femmes. Et en fait, c'est quand même particulier comme activité. Si on compare juste à un autre secteur un peu industriel, l'automobile par exemple, c'est 40% d'ouvriers dans l'automobile. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des ingénieurs, etc., etc., plein de métiers plus qualifiés. La logistique, c'est très majoritairement des métiers plutôt peu qualifiés, ou plutôt des métiers auxquels on ne veut pas donner de qualification. Parce que ce n'est pas la nature même de la logistique qui veut ça, c'est la façon dont le secteur s'est construit. On ne reconnaît pas les qualifications de celles et ceux qui travaillent dans les entrepôts. Donc nous, il y a tout un enjeu là-dessus sur le travail, qui peut avoir plein de ramifications. Et qui est connecté à tout, en fait. On en reparlera après, mais en fait, si on changeait le type d'activité des entrepôts, si on pensait d'autres entrepôts sur le port de Gennevilliers, bah, ça changerait le travail. Par exemple, s'il y avait moins... On peut faire la cascade que j'ai faite tout à l'heure de sous-traitants. S'il y avait moins de projets pensés par des promoteurs immobiliers, bah, déjà, ce serait mieux. Parce qu'on penserait les projets en lien avec le travail. Là, le projet Green Dock, on ne sait pas du tout quel type de travail il y aura, parce que c'est le promoteur qui va louer à des sous-traitants, donc on ne sait pas. Donc on ne peut pas, même pas penser le travail. En plus, si on redescend à l'échelle du dessous, s'il y avait moins de sous-traitants logistiques sur le port de Gennevilliers, c'est-à-dire des grosses entreprises, alors dont on ne connaît pas forcément les noms, mais c'est les XPO, les DB Schenker ou les Geodis aussi, c'est-à-dire les entreprises qui font de la sous-traitance, et ben ça aussi, ça génère des emplois dégradés. Et donc il y a d'autres types de logistique. On peut donner un entrepôt à une autre activité. Par exemple, il y a la logistique publique. Il y a un très grand groupe public qui s'appelle la Sogaris qui fait de la logistique et qui en fait est en train d'être réduit comme toutes les formes publiques du transport, du ferroviaire, voilà, qui est en complètement ratatiné. Bon, c'est une première question. Après, ça résout pas tout. Hein. Il y a quand même plein de problèmes de travail d'exploitation dans les entrepôts. Donc nous, ce qu'on a commencé à discuter, mais c'est un sujet vraiment à approfondir, c'est est-ce que ce serait pas possible d'avoir une charte. Une charte du travail sur le port de Gennevilliers. Et cette charte, on la ferait valider par les acteurs. Les gestionnaires du port, alors ce serait sous pression, hein, parce que ça ne va pas se valider comme ça, les gestionnaires du port et même la mairie de Gennevilliers, pour dire, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup. Hein, quand on interroge les acteurs locaux, ils nous disent « Ah, mais nous, en fait, on n'a aucun pouvoir sur les entreprises. » Eh bien oui, justement, c'est peut-être ça le problème. Il faudrait redonner du pouvoir aux acteurs locaux, et y compris, du coup, aux acteurs de la lutte locaux, et qu'on ait une capacité de pression sur les emplois du port, sur les salaires, sur l'intérim, les pourcentages d'intérim, par exemple, sur la sous-traitance, je l'ai dit, etc., etc., etc. Donc c'est l'idée de rechercher des façons d'agir sur le travail. Alors après, les meilleures façons d'agir sur le travail, c'est de soutenir les mobilisations des ouvriers et des ouvrières de la logistique, et c'est aussi une des manières dont s'est développé le contre-projet, et notamment en février-mars, il y a eu une grève très importante dans un entrepôt qui est l'entrepôt Geodis. Et si tu veux, tu peux en dire un petit mot, parce qu'en plus, c'est un conflit qui continue. Il y a plein de conflits dans cet entrepôt-là. Et les différentes composantes de la lutte Stop Green Dock sont venues soutenir les ouvriers et les ouvrières de cet entrepôt-là. Et l'enjeu aussi de repenser la dignité du travail, de repenser qu'est-ce qu'est le travail et l'écologie, c'est aussi ça. C'est que les luttes écolo aillent se déplacer à ces endroits-là. Et que du coup, dans l'inverse aussi, ça puisse fonctionner, que du côté syndical, il y ait des discussions avec l'écologie. Et on a Zora qui travaille dans cet entrepôt Geodis. Si tu veux nous dire un petit mot où vous en êtes, comment ça s'est passé cette lutte, et peut-être pour toi, qu'est-ce que c'était un peu de croiser des écolos sur le port de Gennevilliers, entre guillemets écolos.
Donc on est à Géodis, Calversal Île-de-France, qui se trouve au port de Gennevilliers. On a subi une répression par rapport au salaire, par rapport à nos DS, où notamment ils ont eu 3 jours de mise à pied. On a fait une grève par rapport aussi au salaire, par rapport aux conditions de travail, où il y a beaucoup d'accès au travail, par rapport aussi aux intérimaires, où il y a beaucoup de sous-traitance, non seulement par rapport aux sous-traitance de conducteurs, parce que normalement, dans une société de transport, il y a des conducteurs maison. Là, maintenant, il n'y en a que 3. C'est que de la sous-traitance, tout le temps de la sous-traitance. Beaucoup d'intérimaires, il n'y a pas d'embauche. Là, justement, il y aura petit à petit tous les gens, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y aura peut-être un plan derrière tout ça, on ne sait pas encore. Une répression des élus, notamment dans le 92 Express, où il y a du racisme. Il y a justement un rassemblement le 13 novembre à partir de 16h. Donc vous êtes tous invités, bien sûr. Et pour dire, par rapport au soulèvement de la terre et Green Dog, ils nous ont soutenus beaucoup par rapport aux grèves. Et notamment, ils nous ont fait connaître dans d'autres, par exemple, domaines, soulèvement de la terre, qui ne connaissaient pas spécialement, parce que nous, on connaissait d'autres syndicats comme Sud, tout ce qui est dans le transport, puis dans d'autres domaines. Mais soulèvement de la terre, je ne connaissais pas avant. Donc voilà, c'était un grand soutien pour nous. Et toutes les luttes se valent. Donc je pense que si, comment vous dire, toutes les personnes se mettent à lutter, y a un mur et puis on peut gagner. N'importe qui, quoi. N'importe qui, que ce soit syndicat, que ce soit... des personnes lambda, si on n'est pas tous ensemble unis, je pense qu'on ne peut pas gagner, et par rapport à ce projet-là aussi. Donc, voilà.
Un tout petit mot sur ce que tu disais, c'est une filiale de la SNCF. Il y a un aspect qui est vraiment intéressant avec Géodis, justement pour l'écologie. Donc, c'est une filiale de la SNCF, donc une entreprise publique de l'État. Et en fait, Géodis, c'est aussi le groupe à travers lequel l'État a organisé lui-même, et c'est triste à dire, le transfert du fret ferroviaire, de toutes les matières qui passaient par des trains, vers du camion. Et donc ça a été non seulement un transfert du public SNCF vers le privé Géodis, mais aussi un transfert du camion, du train, vers le camion, quoi. Et donc il y a des enjeux écologiques très forts derrière tout ça.
Oui, on transporte toutes les marchandises. Donc que ce soit des animaux vivants, on transporte vraiment toutes les marchandises. Et les animaux vivants, ils sont mélangés avec de la ferraille ou des batteries.
Pour quelle destination?
En fait, nous, on n'aime pas forme de transit. Donc on transite, c'est toute la France. Nous, on est un point de chute où toutes les agences, ou les particuliers aussi, emmènent leurs marchandises chez nous, et nous on distribue dans toute la France.
Justement, peut-être si vous voulez, on essaie de continuer, parce que c'est une parfaite transition pour la suite, parce que justement un des enjeux du contre-projet, c'est de dire c'est quoi les flux. Et en fait, tu l'as dit, dans un entrepôt comme Géodis, il y a des flux qui viennent de très loin et des flux qui repartent très loin, et c'est ça vraiment le territoire servant. Et donc quand on nous dit « Ah, mais c'est de la logistique urbaine, c'est du dernier kilomètre pour présenter Green Dog », déjà, ils n'en savaient rien, puisque c'est des sous-traitants à un promoteur immobilier, donc on n'en sait rien du tout. Mais en plus, souvent, c'est faux. Sur le port de Gennevilliers, il y a des flux qui viennent de très loin et qui repartent de très loin. Et du coup, c'est un enjeu de savoir quel type de logistique, et peut-être qu'on ne va pas l'appeler logistique du coup, on peut avoir sur ce port-là. Et si vous voulez, on refait un petit temps de discussion juste après, où on peut recroiser les questions du travail.
Ouais, donc le dernier axe qu'on vous présente un peu de questionnement, c'est qu'est-ce que serait ce que nous on a appelé une logistique d'approvisionnement. Du coup, en opposition à une logistique de flux qui sont lointains, déterritorialisés, là, ça serait dire il nous faut des flux qui sont courts, qui sont capables de boucler sur eux-mêmes, c'est-à-dire qui arrivent de territoires qui sont proches, qui servent le territoire de Gennevilliers et ses environs, et pas forcément que Paris, qui soient capables également, parce qu'il y a des flux qui rentrent sur Paris, mais il y a également beaucoup de flux qui sortent, typiquement au niveau du port de Gennevilliers, notamment tous les flux de déchets du BTP qui sont pris là-dedans. Et donc voilà, comment est-ce qu'on est capable également de penser ces flux dans des logiques de boucle, de repliement sur elles-mêmes. Donc il y a un petit peu toutes ces questions-ci qui sont ouvertes par ça, c'est-à-dire, bon, bah, ok, hériter de ce modèle du flux de la logistique, ça veut dire essayer de l'amener vers une logistique d'approvisionnement avec tous les enjeux que ça charrie, les enjeux donc environnementaux, mais également les rapports au travail. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent se passer qu'avec l'expertise d'usage des ouvriers, mais également avec l'expertise d'autres acteurs. Alors nous, on est assez proche structurellement des personnes qui pensent la sécurité alimentaire, sécurité sociale alimentaire, qui viennent dire, en fait, on vient faire des greniers ou de la vente directe aux producteurs. Bon, voilà, ça aussi, c'est d'autres types d'expertise qu'il y a là-dedans. Et donc, ce qu'on se propose sur ce dernier axe, c'est d'essayer de travailler ça. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que le passage d'un modèle qui serait le modèle de logistique à grande distance à une logistique locale, et comment est-ce qu'on travaille ça depuis différentes situations, celle des travailleurs, qu'est-ce que ça veut dire pour les riverains. Voilà, donc, dernier axe, un petit peu, ça, c'est d'esquisser que serait cette logistique d'approvisionnement. Et quels sont d'ailleurs les verrous qui nous empêchent, parce que là de dire qu'on voudrait ça, mais comment est-ce qu'on fait effectivement pour aller vers ce modèle-là, sachant qu'on est pris aujourd'hui dans des rapports de dépendance économique au transport de marchandises à longue distance. Donc voilà, travailler, mettre à jour les liens de dépendance, comment on défait ces différents nœuds à partir de l'expertise.
Peut-être un petit point sur le BTP.
Sur le BTP, ouais, bah, là aujourd'hui, donc, si on regarde la structuration du port, en fait, il y a une très très grande surface du port qui est occupée par le BTP. Donc le modèle du BTP aujourd'hui, c'est un modèle qui est extractiviste et qui vient souvent importer des matières, donc beaucoup de sable, de granulats, loin de Paris, qui les rebalance d'ailleurs pour reboucher des carrières dans des conditions assez déplorable. Et sur le port même, on a tout un tas d'acteurs peu sympathiques du monde du bâtiment, qui Lafarge notamment, là, bon, on pense à eux et leur cher procès qui se passe en ce moment. Et donc voilà, il y a tout un tas d'acteurs aujourd'hui du port qui eux-mêmes sont pris, pareil, on est dans les mêmes logiques de dépendance, c'est un modèle extractiviste, donc il faut s'émanciper. La question, elle est relativement semblable à cet endroit-ci, c'est-à-dire comment on passe d'un modèle à un autre tout en prenant en compte les contingences qui se posent à l'activité économique. Sur qu'est-ce que ça devient une logistique d'approvisionnement, bah, c'est flottant si on ne rentre pas dans le détail. En effet, il faut rentrer un peu dans le détail et aller gratter. Et puis, la question qui se pose au niveau de la logistique, ce n'est pas exactement la même que sur le BTP. Et donc, ça nous amène sur la suite de la démarche. Là, pour l'instant, on a présenté des axes problématiques, des axes de mise en tension, où justement, on dit, bah, en fait, on ne peut pas le résoudre là, a priori, avec une série de choses un peu simples. C'est des choses où il faut qu'on prolonge la réflexion collectivement. Donc voilà, là, c'est trois axes sur les nouvelles cohabitations, les citoyennetés industrielles, ou on va dire la manière dont les ouvriers participent au devenir du territoire et à la gouvernance des entreprises, et celle-ci sur, on va dire, les modèles économiques et de flux, c'est des axes de questionnement. Et le but du jeu là, de ce contre-projet, ça va être de prolonger derrière. Peut-être on enchaîne sur la suite.
Peut-être un tout petit mot aussi pour celles et ceux. J'en vois que certains qui étaient là la dernière fois quand on a fait les premiers ateliers contre-projet. Il y avait une des discussions qui avait émergé, c'est de dire on veut quoi comme entrepôt. Alors c'est un peu ça, c'est de faire le tri sur le port. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Voilà, bien sûr, c'est hyper complexe quand on rentre dans le détail. Mais c'était complexe aussi de dire nous-mêmes, et donc ça c'est un travail collectif à faire, de qu'est-ce qu'on a besoin comme logistique. Alors, il y a une première chose qui venait, et ça marchait, et on l'a déjà dit tout à l'heure, on dit, bah, il y a un projet de sécurité sociale de l'alimentation, qui est une espèce de sécurité sociale qui permet à tout le monde de s'alimenter avec des bons produits. Et ça, pour faire de la sécurité sociale de l'alimentation, il faut des entrepôts. Donc, réservons un espace pour un entrepôt de la sécurité sociale de l'alimentation, qui a priori serait public peut-être, sur le port de Gennevilliers. Donc ça marchait, mais une fois qu'on avait passé le cap de l'alimentation, on était là, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors la santé, c'est important la santé, donc il faut des entrepôts pharmaceutiques. Bon, là, c'est pas génial les entrepôts pharmaceutiques, c'est aussi des grands groupes sous-traitants qui font de la logistique de la pharmaceutique. Donc la question, elle est complexe et dure, et assez vite. Enfin voilà, c'est des enjeux à travailler, comme tu l'as dit. Petite prise de parole, et après on va passer à la démarche, justement à qu'est-ce qu'on pense comme méthode ensemble pour faire avancer tout ça.
Come on, come on, come on, come on, come on, come on, Antifa.
Come on, Antifa!